Good Morning Business, face à le Chypre.
Hausse des taux, est-ce que c'est un pétard mouillé, une bombe en train d'exploser, un débat entre Jean-Marc Daniel et Emmanuel Lechypre? Vous êtes plutôt du côté des gens qui s'inquiètent ce matin, Emmanuel.
Oui, parce que quand même, hein, quand on regarde les taux américains, on est sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2007. Donc, on peut pas dire que c'est un niveau qui soit complètement anodin. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette hausse de taux, c'est pas tellement qu'elle risque de déclencher demain une déflagration financière. C'est quand même qu'elle accélère finalement l'entrée dans un nouveau régime qui est un régime qui est plus inflationniste. On crante finalement l'entrée dans un nouveau monde. On voit que le pétrole, il est parti pour rester cher pendant longtemps. On rentre quand même, quoi qu'on en dise, dans un régime de stagflation face auquel les banques centrales sont finalement assez démunies. Si elles augmentent les taux, elles cassent la croissance. Si elles ne les augmentent pas, elles ancrent des anticipations d'inflation élevées. Tout ça, encore une fois, dans un monde où les effets de levier sont considérables, puisque jamais l'endettement n'a été aussi élevé. On est à 330-340% du PIB mondial. Ça vaut pour les États, ça vaut pour les particuliers, les entreprises. Tout ça dans un monde où on va avoir de moins en moins d'épargne, notamment avec le vieillissement de la population. Alors, je suis retourné voir quand même ces débats autour de si la population vieillit, est-ce que ça signifie moins d'épargne? Parce qu'évidemment, cette population vieille, elle désépargne. Et est-ce que ça veut dire des taux d'intérêt plus élevés? En fait, il y a une subtilité. C'est que le lien entre la démographie et l'inflation, il est assez simple. Plus vous avez dans un pays une population en âge de travailler nombreuse, moins vous avez d'inflation. Plus vous avez des populations qui ne travaillent pas, c'est-à-dire soit des très jeunes, soit des très vieux, là vous avez plus d'inflation. C'est des travaux du FMI, on l'a vu notamment par exemple aux États-Unis, où dans la période où les baby-boomers étaient jeunes, ça a fait 5 à 6 points d'inflation supplémentaire. Dans la période où ils ont été sur le marché du travail, ça a fait moins d'inflation. Donc tout ça risque de nous faire plus d'inflation avec des besoins de financement absolument considérables. Donc moi j'ai peur qu'on crante l'entrée dans un monde d'épargne plus rare, et de besoins surabondants. Je ne vous refais pas la liste, rien que pour la France, des centaines de milliards dont on a besoin pour tout, transition écologique, transition énergétique, réarmement, vieillissement, etc.
Jean-Marc, vous dites pétard mouillé.
Ah oui, c'est totalement un pétard mouillé. D'ailleurs, vous reprenez ce qui se passait il y a 10 ans, par exemple. On a référé, bon, il y a 10 ans, 2016, le taux d'intérêt, on se pose la question, est-ce qu'il va y avoir durablement des taux d'intérêt négatifs? Le taux d'intérêt sur la dette publique française est à 0,1%. En Europe, le plus élevé, c'est déjà le Royaume-Uni, 0,6%. Et on nous explique qu'il y a énormément d'épargne. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont très bas. On rentre dans une période où il va y avoir, contrairement à ce que vient de dire Emmanuel, énormément d'épargne. Et donc, l'équilibre entre l'épargne et l'investissement va se traduire par la baisse des taux d'intérêt, puisque le taux d'intérêt, c'est le prix de cet équilibre. 10 ans après, on nous dit, ah non, 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 on va manquer l'épargne, c'est dramatique, les taux d'intérêt sont en train... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier, si ce n'est que les politiques monétaires ont changé. Ce qui a véritablement modifié le rapport à l'évolution des taux d'intérêt, c'est l'intervention systématique maintenant des banques centrales dans la détermination de ces taux d'intérêt. Pourquoi 2007, c'est une année clé? Parce que c'est une année où effectivement la politique monétaire se durcit, ce qui va conduire à l'accusation qui va être portée par la suite sur Greenspan d'avoir été par la politique monétaire qui est menée
à l'origine
de la crise de 2008-2009. Vous regardez les travaux qu'il y a en ce moment sur le bilan des années 80, il est bien dit que c'est des banques centrales, et notamment la Réserve fédérale, qui ont provoqué la crise de la dette, notamment la crise de la dette du tiers-monde, en faisant monter artificiellement les taux d'intérêt et en provoquant effectivement un déficit budgétaire américain colossal et la mise d'une soixantaine de pays en tutelle du FMI.
Donc tout va bien jusqu'à ce que les banques centrales augmentent les taux.
Or, qu'est-ce que nous raconte le nouveau gouverneur de la Banque centrale?
Qui va augmenter les taux? Mais parce non, qu'il fait très... Ah, il dit quand même qu'on fait très attention.
Il fait très attention, mais il dit « je respecterai mon mandat ». Et dans son discours, il a dit « je rappelle que mon mandat, c'est l'inflation, mais c'est aussi le plein emploi, et c'est aussi un niveau de taux d'intérêt compatible avec la croissance potentielle de l'économie américaine ». Et donc, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire. D'ailleurs, il y a des gens qui vous expliquent que les taux montent parce que les gens se disent « j'anticipe une baisse future de taux, donc je prends des taux d'intérêt assez élevés en ce moment, parce que ça dure 10 ans ». Et donc, je les prends tout de suite parce que dans 2-3 mois, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, je pense qu'il y a deux éléments pour conclure. Le premier élément, si vous regardez, est-ce qu'en ce moment, les trésors ont du mal pour se financer? le Trésor public français s'est financé le 7, donc il se finance toujours le premier et le troisième jeudi du mois. Et donc, il a levé 14 milliards et il avait des offres de 28 milliards. Donc,
sur les émissions américaines, on a vu des émissions moins souscrites qu'avant, quand même,
moins
Jean-Marc.
Souscrites qu'avant,
toujours sur souscrites, mais moins.
Moins souscrites parce qu'il y a un certain nombre, notamment, de placeurs, d'investisseurs japonais qui sont en train justement de se retirer de ce marché. Mais si vous regardez donc, et le taux d'intérêt était le taux de 3,6%, donc c'était un taux d'intérêt qui était à peu près celui qui avait été envisagé. Donc il n'y a pas immédiatement d'angoisse sur la façon dont les trésors vont se financer. Et la deuxième remarque, c'est la réflexion qui avait été faite ici même, je crois, par François Villeroy de Gallo, qui avait dit, écoutez, sur l'évolution des taux d'intérêt, il me manque dans mes compétences deux éléments. Je ne suis pas expert militaire, donc je ne sais pas comment ça va se terminer à Niort. Et je ne suis pas psychologue, donc je ne comprends pas la politique intérieure des États-Unis. Et donc je pense que ce sont deux éléments qui sont des éléments qui font que assez vite, on va retrouver la tendance de long terme. Pour conclure sur cette tendance de long terme, sur l'inflation et tout ça, je rappelle qu'en ce moment, le salaire mondial baisse.
Non mais donc il y a pas d'inflation.
Moi je veux... y a pas d'inflation.
Alors, 2016 Emmanuel. D'abord c'est pas 2007. 2007. C'est pas du tout le même monde qu'aujourd'hui. Encore une fois, moi je crains qu'encore une fois on crante l'entrée dans un nouveau monde. Jean-Marc ne peut pas nous dire la semaine dernière que les États-Unis sont un pays du tiers-monde hyper endetté et ne pas considérer que ce qui est encore la première puissance mondiale sur tous les plans, ça ne soit pas grave, cette situation financière des États-Unis. Jean-Marc le dit, les Japonais, c'est les maîtres du jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'épargne. Cette épargne, on ne peut pas nier qu'elle va se raréfier. Il va y avoir de moins en moins d'épargne parce que les vieux vont liquider leur épargne pour payer leur retraite et que la population qui va travailler au regard de la population totale et qui crée la richesse va être moins nombreuse. Ça, on ne peut pas le changer. Le fait qu'on va avoir dans le monde entier des besoins colossaux d'investissement, des investissements qui ne seront pas forcément rentables d'ailleurs dans un premier temps sur la transition énergétique. Encore une fois, reprenez la France. À chaque fois, c'est des tickets de 100 milliards. C'est simple. Le vieillissement, c'est 100 milliards. La transition écologique, c'est 100 milliards.
Mais ça, Jean-Marc, il dit pas le
La rénovation.
Faire.
Oui, mais je veux dire, il y a un moment où,
il ne nie pas.
Où quand vous allez avoir moins d'épargne et des besoins d'investissement considérables, Jean-Marc ne peut pas dire que ça n'aura pas d'effet sur les taux d'intérêt, que ces taux d'intérêt vont être plus élevés.
Jean-Marc, dernier mot.
Juste un dernier mot. Par rapport à tout le raisonnement d'Emmanuel, que je pourrais en partie partager, il y a une chose sur laquelle je suis pas du tout d'accord. C'est sur dans l'évolution de la quantité de main-d'œuvre. Encore une fois, la Banque mondiale dit qu'il va y avoir 1,3 milliard de personnes qui vont rentrer sur le marché du travail dans des pays qui ont été capables de créer sur les 10 dernières années, donc c'est de 10 ans à 10 ans, 880 millions d'emplois. Il y a une pression à la baisse sur le salaire par l'augmentation de la main-d'œuvre et de la population active mondiale qui est colossale. Et donc on va plutôt vers une situation où il y aura déflation, baisse des taux d'intérêt et effectivement réorientation de l'épargne.
Sauf que la déflation, Jean-Marc, n'efface pas la dette. C'est bien son drame. Relisez les travaux d'Irving Fisher. Oui. 1933, dans la revue Econometrica, Theory of Debt Deflation. Si vous n'avez pas d'inflation dans un monde très endetté, ben, c'est la ruine.
Petit coup libéré de l'écho avant de partir.
Il va falloir que les États réagissent à la déflation.
Merci à tous les deux. Comme quoi, on finit d'accord.